Nous passons au temps de la prédication et je vous propose d'entendre deux lectures. Pour ceux qui veulent les suivre, la première se fera chez le prophète Sophonie. Voilà, ça ne s'invente pas. Sophonie, un des petits prophètes, comme on les appelle. Sophonie, au chapitre 3. C'est pas gros, Sophonie, il n'y a que trois chapitres. Et vous pourrez préparer votre deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Donc là, on basculera dans le Nouveau Testament. Encore une fois, je suis cette année les lectures qui nous sont proposées par le lectionnaire commun entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, etc. œcuménique, donc. Sophonie, chapitre 3, et je vais lire les versets 14 à 18. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus rien à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi et sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. » Et une deuxième lecture, donc, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Et les versets 4 jusqu'à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et vos actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à la prière. Nous entendons, Seigneur, ces paroles des prophètes, ces paroles des apôtres. Elles nous parviennent à travers les siècles parce que tu as conservé le dépôt des Écritures saintes. Mais pour qu'elles prennent vie en nous, Seigneur, nous avons besoin du secours de ton esprit qui agit en nous, sur cette communauté. Seigneur, nous nous y soumettons, nous acceptons que tu nous façonnes à ton image. Amen. Jésus est au milieu de nous. C'est ça le thème de ce dimanche. L'Éternel est au milieu de nous. Alors, réjouissons-nous. Allez. L'Éternel est au milieu de nous. Voilà tout le message de ce matin, vous l'aurez compris, à la lecture de ces deux textes. Noël, que nous préparons par ce troisième culte de l'Avent, célèbre la naissance du Sauveur des humains. Car Dieu, le Créateur du monde, est venu au monde, non pour le juger ou le punir, mais pour le sauver et le guérir. Alors réjouissons-nous, que nos cœurs soient en fête. L'idée est simple, évidente. Pourtant, cela ne marche pas toujours ainsi. En vous disant ces choses, je vous dis une vérité historique, cosmique, céleste même. Mais pour la plupart d'entre vous, qui êtes chrétiens depuis maintenant bien longtemps, si je vous dis « Jésus est au milieu de vous », vous vous dites « Oui, c'est vrai », sans que ça change grand-chose. Quelque part, cela fait bien longtemps pour nous, les chrétiens, que Jésus est au milieu de nous. Et il n'est pas facile d'y trouver une raison pour que nos cœurs bondissent de joie. Nous sommes habitués à vivre cette connexion spirituelle, lescieux.net, on a le réseau. Alors que je prépare cette prédication, je pense à ceux pour qui ça ne va pas, à ceux qui doutent, à ceux qui luttent, à ceux qui souffrent parce qu'ils traversent le deuil, des épreuves, des oppressions, ceux qui font face à des choix impossibles, ceux qui voient Noël approcher et qui ne s'en réjouissent pas. Je pense à eux et puis je me vois leur dire « L'Éternel est au milieu de nous, réjouissons-nous, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Et je crains qu'en parlant ainsi, je les agace, je les lasse, voire pire, je les culpabilise. De ne pas avoir envie de se réjouir, de ne pas s'en sentir capable. Alors que dire ? Faut-il faire taire cette vérité ? Faut-il la dire seulement à ceux qui vont bien ? Comment parvenir à parler, à proclamer cette facette de l'Évangile ? Jésus est au milieu de nous. De sorte que tous puissent sentir poindre au fond de leur cœur une étincelle de joie. Sachant que moi aussi, je suis un chrétien de longue date, habitué à cette présence constante en moi, habitué à entendre le dimanche, voire plutôt à le dire, Jésus est au milieu de nous. Procédons par étapes. Première étape, peut-être, pour nous réveiller là-dedans, consiste à redonner un peu de chair à ces mots que nous répétons depuis des siècles. Lorsque nous disons « Jésus, Dieu est au milieu de nous », qu'est-ce que nous voulons exprimer ? Cette expression remonte à l'Ancien Testament, vous vous en doutez. On la retrouve, d'abord, dans ce récit des 10 plaies d'Égypte. Dieu dit au Pharaon par la bouche de Moïse, « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Plus loin, dans le récit de l'Exode, le peuple se plaignait et voulait s'en prendre à Moïse, car il ne trouvait pas d'eau. Moïse, sur l'ordre de Dieu, frappa le rocher d'où jaillit de l'eau. Et il appela ce lieu Massa et Meriba, qui veut dire épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» Plus tard encore, Moïse fabriquera, sur l'ordre de Dieu, un sanctuaire, un temple portable, le tabernacle. Et il dira ceci à Moïse, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dans la culture de l'époque, ce Dieu qui vient habiter au milieu du peuple évoque le thème du mariage. Si le peuple apprête un lieu de résidence pour ce Dieu et que ce Dieu consent à venir l'habiter de sa gloire, alors ce peuple a été choisi comme épouse par ce Dieu époux. Dieu et son peuple cohabitent comme des époux. Et si Israël se tourne vers d'autres dieux, si elle invite en son sein d'autres divinités aux côtés de l'Éternel, eh bien celui-ci est jaloux et il se met en colère. Et vu sous cet angle, on comprend pourquoi. Par sa présence au milieu du peuple, Dieu apporte sa protection, la victoire lors des combats qu'il conduit, mais pas les combats qu'il ne conduit pas, la prospérité dans le pays où il demeure. Si Israël lui demeure fidèle, avec les pluies qui tombent au bon rythme des saisons, les moissons qui abondent, et Dieu rend fécond ce peuple, alors que leur relation d'amour grandit. Mais si ce peuple s'écarte de lui, s'il cherche sa joie vers d'autres dieux, d'autres sauveurs politiques, Dieu retient sa bénédiction et laisse ses autres prétendus dieux faire leurs œuvres de bénédiction, faire venir la pluie, protéger des autres armées. Ou ses prétendants politiques asservir le peuple alors qu'ils affirment vouloir le sauver. Et le pays dessèche. Le peuple est soumis à d'autres puissances, violence, injustice, immoralité fermentent dans le pays. Dieu parmi nous, c'est une relation privilégiée entre Dieu et son peuple. Cette relation bénie, tant que Dieu n'est pas exploité par le peuple et qu'elle est vécue réciproquement. Mais lorsque le peuple veut instrumentaliser son Dieu, alors le malheur surgit car il est impossible d'instrumentaliser le Créateur. C'est de la folie à l'état pur qui ne peut rien produire de bon, rien penser de bon, rien créer de bon. Dieu était donc au milieu de son peuple qui lui rendait un culte, par un style de vie à part, en observant ses lois, ses sagesses, et en se réconciliant avec lui quand cela était nécessaire. Mais nous comprenons que la venue de Jésus apporte autre chose que cette présence de Dieu au milieu du peuple, car Jésus est Dieu qui devient un humain, une autre façon pour Dieu d'être au milieu de son peuple. Votre relation à Dieu n'est peut-être pas au beau fixe, peut-être est-elle grisâtre, terne, sans saveur. Peut-être que votre relation à Dieu est inquiétée, incertaine. Peut-être est-elle fatiguée, lassée, usée, trahie, brisée. Le peuple de l'ancienne alliance a vécu tout cela. Il s'est désillusionné, il s'est senti abandonné, trahi, il s'est senti menacé. Il s'est écarté et il s'est détourné. Et toute cette relation ne menait plus à rien. Le peuple ne trouvait plus d'appui dans cette phrase « Dieu est au milieu de nous » et Dieu ne trouvait plus sa place au milieu de ce peuple qui dressait des autels à d'autres divinités. Que faire ? Eh bien, Dieu a choisi de se rapprocher encore plus, de venir au sein même du peuple. Et il est né dans ce peuple pour être au milieu de lui en chair et en os. C'est Jésus qui vient. Et ce Jésus a embrassé l'identité de ce peuple, ses souffrances, ses peurs, ses luttes, ses défis. Il a vécu tout en vivant avec son Père pour seul vrai Dieu. C'est comme si cet écartèlement que vous et moi nous connaissons entre la vie de foi et la vie de ce monde, on se sent tiraillé. Jésus l'avait enduré à l'extrême, sans aucun compromis, sans lâcher de sa main droite la foi, la confiance en son Père, ni lâcher de sa main gauche son amour et son attachement, sa communion quelque part, avec ce peuple qui se perdait au loin, tellement qu'il en est mort. Mais cette mort n'a pas été un synonyme de rupture. Sa mort a été suivie d'une résurrection Il est devenu comme un pont indestructible, insubmersible entre Dieu et son peuple, un pont qui supportera toutes les tempêtes, tous les ouragans, les tremblements de terre et les bombardements. Plus rien ne peut venir briser ce pont dressé entre Dieu et son peuple. Car aussi loin que peut porter votre regard, aussi loin que le peuple peut errer loin de Dieu, ce pont court et continue, offrant un chemin, une voie de salut qui n'est jamais hors de la portée de quiconque le voit et veut faire un pas vers Dieu. Jésus est parmi nous et plus personne ne peut se trouver hors de la portée du salut. Mais le message ne s'arrête pas là. Pour l'instant, tout est simple à expliquer, si je puis me permettre. Parlons encore de cette présence de Dieu, car il est allé encore plus loin dans le milieu de nous. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est passé dans de notre réalité physique à la réalité invisible de Dieu. On appelle ça les cieux. Et là, il a pris place à la droite de Dieu, le trône du monde. Il nous a envoyé son esprit sur son peuple, afin que Dieu soit présent, non pas seulement sur nous, mais en chacun d'entre nous. Dieu vient au milieu de toi, de moi, pour faire de nos corps sa demeure, tout autant que nous ôterons aussi spirituellement dans son corps, afin de ne faire qu'un avec lui. De cette façon, Dieu veut te dire, Dieu veut nous dire que nous lui appartenons complètement. Nous sommes à lui et il est à nous. Parfois, je regarde Camille et je dis ces mots. Ma femme. Et je m'émerveille de ce qu'il signifie. Veulent-ils dire qu'elle m'appartient, comme je dirais ma voiture ou ma maison ? Non. Car on ne peut pas posséder un être humain. Ces mots veulent dire qu'elle est pour moi, qu'elle a choisi de vivre sa vie avec moi, et moi seul, comme époux, qu'elle s'offre à moi et à moi seul, qu'elle m'aime à l'exclusion de tous les autres hommes. Ces choses qui ne sont belles que si elles sont offertes avec amour. Ces choses qui deviennent hideuses aussitôt qu'elles sont forcées ou volées. Alors surgit en moi une joie, une reconnaissance, une humilité aussi, qu'une humaine, pleine de liberté, de vie, de mystère, veuille vivre avec moi. Malgré nous pourrions dire la même chose d'un ami, mon ami, d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, d'un enfant, mon fils, ma fille. Peut-être que vous n'êtes pas marié, peut-être que vos relations familiales sont lourdes, compliquées, détruites. Je crois que ça ne vous empêche pas de saisir le sens de cette image. Parce que si vous souffrez de ces relations, vous aspirez aussi à ce qu'elles pourraient être si elles étaient guéries. Eh bien, vous qui m'écoutez, vous pouvez dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu qui me choisit pour m'aimer. » Moi, malgré moi, mon Dieu qui me connaît et qui veut être connu par moi, mon Dieu qui est mystérieux, libre, unique, tellement plus intelligent que moi, qui connaît les secrets, qui conduit le destin du monde, la course des astres, l'équilibre entre les galaxies. mon Dieu, qui vit en moi, qui a choisi de faire sa demeure par son esprit en moi. Mon Dieu, qui s'est réjoui lors de mon baptême, que son nom à lui a été placé sur ma personne à moi, définitivement, pour que j'apprenne à le porter et à vivre sous son nom, malgré tout ce que je vais en faire. Mon Dieu qui reste là quand je fuis, qui m'attend lorsque je refuse de le voir, qui me suit quand je me perds, qui pleure quand je pleure. Aussi, mon Dieu qui est lui, qui n'est pas moi, qui vit ses projets, auquel il aspire terriblement que je participe, qui poursuit ses plans pour ce monde, pour son peuple tout entier, où j'ai une place à prendre, mais qu'il ne va pas construire autour de moi. Mon Dieu qui fait des choix étranges, révoltants parfois, puis qui accepte que je ne les accepte pas, qui accepte que je ne les comprenne pas, et qui attend, et qui espère, mais que je l'accepte comme il est, avec tout ce qui ne va pas en lui. Parce qu'il ne va pas changer pour moi. Alors, je ne vais pas vous dire que se réjouir de Dieu qui est au milieu de nous, c'est un devoir. Mais je prie, j'espère vous avoir montré par ces paroles qu'avoir un Dieu comme lui, que ce Dieu-là soit le vôtre et pas un autre Dieu, c'est une belle chose. C'est une bonne chose. L'Éternel est au milieu de nous. L'Éternel est au milieu de toi. Et il poussera même des cris de joie, d'après le texte de Sophonie, au jour où il t'accueillera dans sa demeure éternelle. Je ne sais pas si vous imaginez Dieu pousser un cri de joie. Ça fait bizarre. Voilà, j'ai dit tout ça, et en fait, ça va pas enlever peut-être les épreuves que vous traversez. Ça va pas enlever les souffrances peut-être que vous connaissez chaque jour. Ça va pas enlever l'horizon peut-être qui vous paraît bouché. Non. Mais en miroir, toutes ces situations compliquées que vous vivez, toutes ces choses difficiles et douloureuses, ne le feront pas partir. Ne le feront pas partir. On a pris une autostoppeuse vendredi en allant à Toulouse avec Camille. Elle avait connu quelque chose de difficile puisqu'elle s'était retrouvée être personne accompagnante d'un ami en phase terminale de son cancer et en soins palliatifs. Donc elle a été catapultée dans ce milieu-là où on affronte la mort et où parfois le personnel soignant est honnête et juste et parfois il cache. Elle a eu les deux. Et elle avait été étonnée déjà d'expérimenter que quand on traverse des moments de souffrance intense ou de mort, les gens nous fuient. Elle a perdu son père très jeune et en fait, la famille du côté de son père a disparu des radars tout de suite après la mort du papa. Et des années plus tard, elle a essayé de les rencontrer et c'était difficile. Et elle s'est interrogée, mais pourquoi ils sont partis si loin à cause de la mort? C'est au contraire, il faut rester. Et puis elle accompagne cette personne jusqu'à la fin de sa vie. Et après cela, elle se surprend
à essayer d'aller visiter la famille du défunt une fois, deux fois, et puis de plus y aller, et de plus vouloir y aller, de plus vouloir être auprès de ceux qui souffrent. Et elle s'est dit, mais mince, je fais pareil. Parce que c'est pas facile d'être auprès de ceux qui souffrent. Moi je vous dis, frères et sœurs, Dieu est au milieu de nous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va faire exactement ce que vous attendez, ce que vous espérez, qu'il ne va pas agir de la manière dont vous en rêvez, parce qu'il est lui qui fera bien ce qu'il veut. Peut-être encore plus imprévisible qu'un chat. Mais il sera là. Et tous les malheurs du monde ne le feront pas partir de vos côtés. Si ce n'est pas aujourd'hui, j'espère que très bientôt vous direz avec l'apôtre, avec les sœurs et les frères qui vous entourent, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen.